Amen. Donc, mes sœurs, je vais chercher un peu difficile parce que il y a beaucoup de sujets mis bout à bout. Et le fil conducteur est difficile à trouver. On ne va pas commencer par faire ça. On va sauter les parties sur lesquelles on reviendra après. Je vais commencer au chapitre 7. Je vais sauter la partie de sautage. C'était dans chaque nazir. On reprend un peu dans l'histoire d'Israël. Vaïhi, v'yom kalot Moshe l'akim et hamishkan. C'est le jour où Moshe Rabbeinu a terminé de monter le Mishkan, le tabernacle. וישחותו וקדשותו וקוטליו ומזבח וקוטליו וישכם ויקדש אותם. רש"י סופלס, רש"י דין ביום קלות משה להקים. כלומר, זה בגלל לז'ור ואילה טרמיני משה דה dresser, de monter le Mishkan. V'lon emar v'yom hakim. Pourquoi est-ce qu'on dit le jour où il a terminé de monter plutôt que de dire le jour où il a monté? C'est parce que Melamed, ça vient nous enseigner Shekol Shivat Yemei Hamiluim Haya Moshe Ma'amido ומפרקו ואותו היום העמידו ולא פרקו וכך נאמר ביום קלות משה להקים אותו ביום קלו הקמותיו aujourd'hui on en a fini avec les montées et je précise que c'était Rosh Chodesh Nissan היה Bon, il est possible, mais chez lui, il se fait un para, réfléchis, Zou, Azaya, Rishona, Bashvi, et Galo. Donc, on est à la fin du processus de purification aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Comme vous le savez, lorsque le Mishkan a été terminé, Moshe avait supervisé ce qui avait été fait, mais ce n'est pas lui qui a fabriqué le Mishkan, il y avait les Sarel, le Yav et tous les autres, ou les Armelev qui se sont occupés de ça. Et quand il a fallu monter le Mishkan, ben, tout le monde a essayé, mais ça n'a pas marché. Il ne pouvait pas lever le Mishkan, les poutres était trop lourd, personne ne pouvait lever le Mishkan. Moshe pouvait en vérité, Moshe l'a levé, mais il ne pouvait pas le faire tenir. C'est Hachem qui lui a dit, écoute, toi tu le lèves, et moi je me mets au-dessus de toi en quelque sorte, et je le tiens comme une marionnette avec des fils. Et Moshe Rabbeinu a monté le Mishkan, et tous les jours, pendant 7 jours, il l'a monté, et le soir il l'a démonté, le lendemain il l'a remonté, ensuite il l'a démonté. Il a fait ça pendant 7 jours, ils sont appelés 7 jours de Milouim. C'est l'inauguration, si vous voulez, du Mishkan. Pendant ces jours-là, c'était aussi Moshe Rabbeinu qui était le Kohen Gadol. seulement le huitième jour que Moshe Rabbeinu a installé en quelque sorte Aaron comme Kohen Gadol. Jusque-là, c'est Moshe Rabbeinu qui était Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, par exemple, tenait le rôle de Kohen Gadol, et lui, Moshe Rabbeinu, n'avait pas besoin de tout l'apparat dont Aaron allait avoir besoin. Tout le travail que Moshe Rabbeinu l'a fait avec des lavans, c'est-à-dire avec des vêtements blancs, pas du tout les vêtements d'apparat du Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de ça, il n'avait pas besoin qu'on mette l'accent, qu'on l'entoure, etc., qu'on l'enveloppe en quelque sorte avec toute une splendeur qu'on voulait mettre autour du Kohen Gadol, parce que Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait pas besoin de ça, peut-être son rayonnement personnel était tel que ce n'était pas nécessaire. Donc, Moshe Rabbeinu a fait ce travail, et le septième jour, il l'a monté, et il n'a pas démonté de nouveau. On est le huitième jour, et le huitième jour, le témoin, en quelque sorte, de Kohen Gadol, à Aaron, et on a installé en même temps les fils d'Aaron qui allaient devenir Kohanim. Voilà, il y a très peu de Kohanim, Aaron a connu ses fils. Alors Moshe a tout préparé, il a oint le Mishkan, tous les kélim qui avaient besoin de cette onction. Et puis ensuite, il y a écrit, vous naissiez Israël, Rachet et Betavotam. Ensuite se sont approchés les princes d'Israël, ceux qui étaient la tête de toute leur maison. Hem Nesiye Amatot, c'est les chefs des différentes tribus. Hem Aondim Alapkudim, c'est eux qui étaient responsables en quelque sorte pour donner pour vérifier que chacun fait son travail. Ces gens-là, Rachid dit que comment sait-il sur quels critères est-ce qu'ils ont été choisis pour devenir les chefs de tribu, etc. Alors Rachid rapporte qu'en Égypte, ces gens-là étaient responsables du travail des Israël, étant en quelque sorte des contremaîtres des Israël. Ils avaient au-dessus d'eux, évidemment, des contremaîtres, des capots égyptiens. Et quand les Israël ne faisaient pas le travail tel que les Égyptiens voulaient qu'il soit fait, ce sont eux qui ont pris les coups. Ceux qui sont devenus Nessim sont ceux qui, en quelque sorte, ont payé pour, donc ils ont servi de protection des Bnei Israël, c'est eux qui ont reçu tous les coups que les Égyptiens voulaient donner aux Bnei Israël. Et ce sont ces gens-là qui étaient là au tout début de la paracha, quand on a compté un dénombrement donc d'Israël, les gens, quand on les a comptés, quand on en parlait de ça la dernière fois, les gens passaient devant Moshe Rabbeinu, Aaron et le chef de leur tribu, en fait. Et ils recevaient donc des brachot de Moshe, d'Aaron et du chef de tribu. On a une des raisons pour lesquelles on s'est permis de faire le décompte, parce que normalement quand on fait un décompte, on ne le fait pas directement parce que c'est mauvais, on en parlait longuement de ces questions, mais là, celui-là on pouvait le faire dans la mesure où chacun était mis en valeur, chacun recevait une bracha de Moshe, Aaron et du chef de tribu. Donc il n'y avait pas là les écueils qu'il y a lorsqu'on fait un décompte d'Israël, simplement en les comptant sans ce système de brachot, etc. Les Lévites ont apporté à ce moment-là, Yaviu et Korbanam, l'Ifne Hachem, ils ont apporté leur korbanot devant Hachem, et on nous dit ce qu'ils ont, amené, Chesh, Eglot Tzav, Ushne, Asar Bakar, Agalot, Ushne, Tsiyim, Shor, Echad, Yatou, ils ont amené en quelque sorte les moyens de transport du Mishkan. Vayomer Hashem el Moshe el Emor, Kach Meitam. Accepte. Donc on doit se demander pourquoi est-ce qu'il fallait que Moshe reçoive la permission ou l'ordre d'Hachem d'accepter ce qu'ils allaient apporter, ce qu'ils ont apporté. Vayoula Avonet Avodat Oel Moed. Et quand tu donneras tout ça aux Lévites, qui sont eux ceux qui vont assurer le transport, et mon cher Abel a pris les agalotes, il a accepté les charrettes, les chariots et les bêtes, les bœufs, etc. Il les a donnés aux Lévites. Bon, et ensuite on continue d'expliquer plus en détail. Pourquoi est-ce qu'il faut un problème d'accepter, etc. Rashi dit sur Menachim et Otam, ils ont approché les fameuses charrettes, les chariots, pardon, les bêtes de somme qui avaient tiré ces avalotes. Ils ont amené. Devant Moshe, devant Mishkan, et Rashi ajoute, Shelo kibel Moshe miyadam. Moshe n'a pas accepté qu'ils amenaient, ad shenemar lo, jusqu'à ce qu'Hachem lui vient à corps, lui dise de les accepter. Pourquoi ils n'acceptaient pas alors? Rabbi Nathan dit, Marao Ansim, Vitnadev Khan de Kila, et de Blechet Amishkan, Loïtnadvut Kila. Alors ça fait référence à ce qui s'est passé au moment où les Bnei Israël ont été invités à apporter les matériaux avec lesquels on allait construire le Mishkan. Tout de suite après la faute du Vaudor, quand Moshe Rabbeinu a intercédé, il a obtenu qu'Hachem pardonne, il est redescendu avec les deuxièmes louchotes, avec le deuxième table. À ce moment-là, comme beaucoup a donné l'ordre de construire le Mishkan, et Moshe leur a dit donc d'apporter les matériaux. Et à ce moment-là, les Messie, les princes, n'ont pas apporté. Donc, grossièrement, leur idée, c'était, nous, on va compléter. Laissons-les apporter ce qu'ils sont capables d'apporter. Et nous, ensuite, on va compléter. Mais il s'est trouvé qu'il n'y avait plus rien à compléter. Et les Israël avaient apporté tout ce dont on avait besoin. Et ils sont restés à ne pas pouvoir apporter. Donc, cette fois-ci, à l'inauguration, maintenant, ils ont dit, on apporte maintenant les premiers. On ne va pas apporter, on n'attendra pas que les autres amènent. Ça, c'est la raison pour laquelle, maintenant, pourquoi est-ce que Moshe ne voulait pas apporter d'une certaine manière, il ne voulait pas accepter de. Quand Hachem lui dit. Parce que, justement, ils allaient apporter avant les autres, alors, parce que Moshe et Rabbeinu ne voulaient pas qu'ils puissent apporter avant les autres, sauf si Hachem le leur permettait. Donc on leur a donné effectivement la permission et ils ont effectivement amené ça. Maintenant, dans Hadal, on voit qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que le fait que les Sikhim n'avaient pas apporté de contribution à la collecte des matériaux, peut-être parce que, regardez ça un peu, ils ont regardé ça un peu de haut, c'était une faute de leur part, et il y avait un problème, c'est pourquoi est-ce que personne ne pouvait monter le Mishkan? Parce qu'en réalité, c'est le Nessim qui aurait dû le monter, mais pour eux, c'est devenu trop lourd. Comment se fait-il qu'eux, tous ensemble, ne pouvaient pas le monter alors que le Moshe Rabbeinu tout seul pouvait le monter? Bon, parce qu'il s'agit évidemment d'un problème qui n'était pas un problème physique, c'était un problème spirituel, en fait. Donc c'est une sanction de leur négligence au moment de leur orgueil, peut-être, de regarder les choses un peu de haut. Donc cette fois-ci, ils ont compris qu'ils étaient un peu en défaut, et peut-être que Moshe Rabbeinu qui savait ça, donc ils ne voulaient pas accepter leur contribution, peut-être est-ce qu'ils ont fait tchouva sur leur façon de regarder les choses, donc jusqu'à ce qu'Hachem leur dise à Moshe Rabbeinu d'accepter cette contribution. Donc chacun a reçu dans les nuits, ils ont reçu ce dont ils avaient besoin pour assurer le transport. Et ensuite, on a continué. Ensuite, au Passouk Yud, Voyakrivoansim et Khanukat Amisbeach. Donc les Nessim ont approché maintenant, à part Sergalot, ils ont amené Chalukat HaMizbeach, l'inauguration de l'autel de Mizbeach, le jour effectivement où on a oint, où je ravais à oint cet autel, et ils ont amené leur korbanot qui venait à Mizbeach. Alors, Vayomer Hashem El Moshe, Nasi Echad Layom, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. שק נשיא, שק פרנס, ואפורטה, סון קורבן, אנג'ור, כנפית, לדוזיאם נשיא, ואפורטה, ללנדמה, אצטר. היהודי, ויהי המקריב, ביום הראשון, תמיד יפושה, לקורבנות סור למזבח. Des dons, effectivement. Premier jour, c'est Nachshon et Aminadab, le Maté Yehuda. Nachshon et Aminadab, qui est le prince de la tribu de Yehuda. On connaît déjà ce Nachshon et Aminadab, puisque, d'après les Midrashim, c'est lui qui est entré dans la mer le premier. C'est lui qui a sauté dans la mer le premier. Ne savait pas très bien dans quel ordre est-ce qu'il devait apporter, parce que quand on a la semaine dernière, quand on a lu dans la paracha, on a vu qu'il y avait deux ordres. Il y avait un ordre selon Israël selon la naissance, l'ordre de naissance, Ruben, Shimon, etc. Et puis ensuite un autre ordre qui correspondait, vous vous souvenez, aux 4x3 tribus autour du Mishkan, qui correspondait aux 4x3 tribus autour du lit de mort de Yaakov Avinu. On avait donc à l'est, il y avait Yehuda, au sud, il y avait Reuven, à l'ouest, Ephraim, et au nord, Dan. Et chacune de ces 4 tribus était flanquée de 2 tribus, une à gauche, une à droite, si vous préférez, et ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand il se mettait en marche, alors les deux premiers, Yehuda et Reuven, se mettaient en marche, après il y avait le Mishkan, et donc les Vim, les Panim, les Vim, et ensuite les deux derniers. Donc il y avait deux sortes, il y a deux façons, deux ordres de présenter le monde. Donc là on a vu que c'est l'ordre déplacement dans le désert, avec Yehuda en tête, donc ça commence, ça va dans ce sens-là. Effectivement, Yehuda est le premier, et il amène lui son corban, et puis ensuite on dit, ben, le deuxième, Bayom Hacheni, Ikrit et Amel Ben Soar, Nasi Issachar. Alors, je répète ce que je dis souvent, que Chazal dit que Nachshon, il a amené tout ce qu'on pouvait imaginer à nous. Tous les corbanotes qu'on va amener par la suite, dans toutes les sortes de corbanotes, et tous les dons, et tout ce qu'on va donner pour le Bédekabaï, pour le fonctionnement du Mishkan, etc., il a tout amené. Marchons. Ok. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'il va faire le deuxième? Si Netanel, un soir, le Nassi de Issachar, il faut qu'il fasse mieux, quoi. Comment est-ce qu'il va se distinguer comme Marchand a bien tout amené. Qu'est-ce qu'il peut amener encore? Alors, s'il amène deux fois, il amène le double. Bon, pour deux fois, vous imaginez ce que ça va donner au deuxième. D'accord? On va tuer tout le bétail français de Navarre. C'est pas possible. Alors, le Nassi, Issachar, il a eu une idée géniale, en fait. Il a apporté exactement la même chose. Et dans le Midrash, on nous explique cette chose très importante. C'est que lui, il a apporté les mêmes objets. Les mêmes corbanotes, les mêmes animaux, les mêmes quantités d'or et d'argent, etc. Seulement, Nachshon ben Aminadab, le prince de la tribu de Yehuda, c'est la tribu royale. Alors le Midrash explique tout ce que Nachshon a amené en termes de royauté, expression de sa royauté. Comme il était le prince de la tribu royale, il exprime sa royauté de toute cette manière. Et puis ensuite, comme Issachar, c'est celui de la tribu, le prince de la tribu qui se consacre à l'étude de la Torah, on va expliquer les mêmes choses, mais entièrement en termes de Torah, etc. Et chacun, on va expliquer, le Midrash ne va pas jusqu'au bout, malheureusement, enfin bon, il en explique quelques-uns, à chaque fois, pour expliquer dans le détail, on voit très bien, donc, quel sens il fallait donner à ce même animal, à ce même corban, disons, selon qu'il est donné par la tribu royale, qui est la tribu de la Torah, la tribu de celui qui entretient celui qui étudie, c'est Zvouloun qui entretient Issachar avec le fameux couple ici, etc. Donc ça, c'était le coup de génie, en fait, si vous voulez, du prince de la tribu d'Issachar. On voit très bien que c'est la Torah, quoi. Et c'est fondamental de voir que les mêmes choses n'ont pas du tout le même sens selon qu'elles sont apportées par X ou Y, par celui-ci ou celui-là. Et il est important d'arriver à donner du sens, mais le sens qu'on peut donner, c'est de soi-même. Exactement, comme dans l'étude de la Torah, vous connaissez probablement que les Avot ont dit que les paroles de la Torah, elles sont comparées à des braises. Et quand on veut faire partir le feu, il faut souffler dessus, sur les braises. Comme dit la Gemara, quand tu souffles sur les braises, c'est ton intérieur que tu... C'est avec ton intérieur, ton souffle personnel que tu souffles sur les braises. Donc c'est le feu que tu vas produire avec ces mêmes braises. Quelqu'un d'autre aurait produit un autre feu. Parce que c'est ton souffle, ta qualité. On peut prendre même imaginer qu'on souffle avec des... Même avec une chimie un peu différente, peu importe. Et en tout cas, c'est spécifique à chacun. Et donc ça, c'était très important parce que tout à coup, on a donné une dimension différente au korbanot. Le korban, du coup, il a une signification complètement différente. C'est pas simplement l'animal qu'il est et qu'on amène de telle ou telle manière, qu'on grille ou qu'on mange, etc. Mais il est en fait une expression de celui qui amène ce korban. Ce sera vrai pour toute la suite. C'est vrai pour toutes les mitzvot en réalité, que chaque fois qu'on a on a tous les mêmes mitzvot, mais on va tous donner à ces mitzvot des dimensions différentes en fonction de ce que nous sommes. Chacun de nous fait la même mitzvot, le même geste, mais lui donne une dimension différente. Et ça, c'est important. C'est une des premières des leçons fondamentales ici dans cette parasha ici. C'est pour ça probablement que la Torah finalement elle redit à chaque fois pour chaque prince qu'il a amené, alors qu'on aurait pu dire ils ont tous amené la même chose. Non, la Torah elle répète parce que il faut bien entendre que c'est vrai que ce sont les mêmes objets, ce sont les mêmes dimensions si vous voulez, mais ça a un sens complètement différent selon que ça vient de telle ou telle tribu, donc généralement de telle ou telle personne. Ça c'est le, si vous voulez, l'explication de cette redondance en quelque sorte de tous ces 12 fois la même chose. La Torah est assez avare de ces mots pour qu'on ait de la difficulté à comprendre pourquoi elle répète tout ça un tel nombre de fois. Maintenant, on peut revenir peut-être au début. On avait fait le décompte des Bnei Israël, et maintenant il faut mon cher ami reçoit l'ordre Nassau et Roche Bnei Gershon. Bnei Gershon, ça veut dire on est dans la tribu de Lévi. Eux aussi il faut littéralement élever leur tête. Eux aussi, par rapport, ils représentent leur maison familiale, en fait, leur âge, etc., leur donner des tâches spécifiques, et il faut élever leur tête, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, élever leur tête? Ça veut dire, la tête de la tribu, il faut lui donner un statut particulier. Un instant. Donc la barrage, elle commence par donner les tâches des différents chefs de famille de la tribu de Lévi. On a déjà parlé des tâches des différentes tribus en dehors de la tribu de Lévi, qui elle n'est pas comptée avec les autres. Ensuite, on nous parle d'un problème de Touma. Ensuite, de nouveau, la pointe de comment est-ce que les gens qui ont fait des fautes doivent se confesser, vite, vadou et fratata, ma chère Assou. Il y a un problème de. Il ne suffit pas d'apporter les korbanot. Donc on a fait une faute, il y a les corbanotes pour réparer. Mais s'il n'y a pas un bidouille, c'est-à-dire le bidouille, c'est l'acte de la tchouva. Quand on fait tchouva, on doit confesser sa faute. Cette confession, comme tout le monde sait, c'est une confession qui se fait entre l'homme, la femme et Hachem. C'est pas quelque chose qui se fait à haute voix, c'est pas quelque chose qui se fait publiquement. Ou alors, quand on fait les Kippour, alors tout le monde dit la même chose. Donc, ça, parce que, a priori, si on veut vraiment parler avec Hachem, il faut qu'on ait une audience un peu privée. On ne va pas commencer à mettre sur la place publique toutes nos turpitudes et autres choses, disons. Et donc, il faudrait qu'on puisse les lire discrètement. Alors, quand on le. De peur que même quand on fait la prière à voix basse, quelqu'un entend, alors tout le monde dit la même chose. Hachamnou, Babadnou, c'est-à-dire on sait par ordre alphabétique, et on dit tout. Alors, bon, bien sûr, il faut trouver une vitesse qui vous permette de, lorsque une des choses qui est dite vous concerne, de pouvoir faire une petite différence entre ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne pas. On n'est pas tous des assassins. Ben, tout le monde n'a pas tué, je veux dire, tout le monde. Voler, c'est déjà plus difficile parce que la Torah est très sévère, même si le vol, ce n'est pas obligatoirement qu'on arrache le sac d'une dame dans la rue ou qu'on fait un braquage de bijouterie. Il y a des choses beaucoup plus subtiles qui sont déjà considérées comme le vol. Donc, ça, c'est facile si on s'en. Donc, on fait ça de telle sorte que ce soit discret, mais il faut l'exprimer. Les fautes ne peuvent pas. On ne peut pas faire vraiment le chouba si on n'a pas mis la faute à l'extérieur de soi pour prendre de la distance par rapport à cette faute. Ça, c'est le hit vadou dont se confesser. Ça, c'est important. N'importe quand. Normal. La Mara, elle dit que si tu vois. Tu vois quelqu'un qui prend sérieux, qui prend la Torah très au sérieux, qui fait une faute, le lendemain, tu ne peux même pas lui en faire le reproche, parce que c'est sûr que dans son examen de conscience avant d'aller se coucher, il a fait tchouva. Alors, ça, c'est aussi peut-être l'occasion de répéter que il y a des gens qui s'imaginent que c'est bien de porter la culpabilité, etc. La Torah, elle est contre la culpabilité. La culpabilité, elle ne vous permet pas de servir Hachem. Parce que quand on porte sa culpabilité, on ne peut pas avoir de simcha, on ne peut pas avoir de joie. Or, on ne peut pas servir Hachem sans joie. Si on sert Hachem sans joie, c'est pas un bon service d'Hachem. C'est pas comme ça. Alors, il ne s'agit pas de dire, c'est pas important. Oui, c'est important, mais voilà comment on doit faire. On prend conscience de la faute pour réfléchir, et si on comprend que j'ai fait une faute, mais je regrette de l'avoir faite, j'aurais aimé jamais l'avoir faite, mais je prends des mesures pour ne plus la faire, je fais ça, je le dis, je l'exprime, je dis la faute que j'ai faite, avec Hachem, tout, et puis c'est tout, et on arrête. Et on n'en parle plus. Éventuellement, il y a un petit cours d'après qui suit, on peut le re-mentionner et refaire dans le bidouille et en parler. Mais il faut arrêter, parce que voilà, on a fait ce qu'il fallait. Si sérieusement on fait tchouva, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Il faut continuer la vie. Alors bon, les mesures, elles sont peut-être de. Si on va voir justement une des mesures, la Torah, elle va donner ici un exemple. Bon, vous connaissez, on va en parler. On parle ici de la paracha de la Sota. Bon, c'est une femme que son mari soupçonne d'adultère, à tort ou à raison d'ailleurs. Et bon, il y a toute une procédure, on va en parler. Mais juste après, la Torah, elle parle du nazir, celui qui décide de prendre un statut de nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui est interdit de consommer tout ce qui a à voir avec le raisin, et qui ne doit pas couper ses cheveux, qui ne doit pas se rendre impur pendant un certain temps, un temps qu'il a fixé lui-même. On peut dire combien de temps. Si on ne fixe rien, si on dit simplement qu'on veut être, quelqu'un dit qu'il veut être nazir, si on ne dit rien, c'est 30 jours. Mais aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, il ne faut pas le faire parce que pour sortir de cet état de nazir, il faut des corbanotes, etc. Et on ne les a pas aujourd'hui. Ils sont quelqu'un qui, si vraiment quelqu'un devenait nazir aujourd'hui, il est nazir jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il ne peut pas en sortir. Donc, c'est un truc à faire. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais par contre, on nous dit justement pourquoi la paracha de Nazir est écrite juste après l'histoire de la Sota, parce que, dit la Gemara, celui qui a vu la Sota dans son état de dégradation, etc., une des raisons pour lesquelles elle était dans cet état, c'est peut-être qu'elle a fait des bêtises en état d'ébriété. Donc lui, celui qui voit cela, il doit prendre des mesures pour ne pas tomber dans un état d'ébriété. D'accord ? Donc, il devient nazir pour ne pas... Donc, il s'interdit de boire pendant un certain moment, en tout cas, pour se prendre conscience que voilà où l'ébriété, l'état de boire de trop, pourrait m'amener. Donc, on voit, c'est une leçon, quand il y a quelque chose, pour prendre des mesures. Bon, là-bas, pourquoi est-ce que... On va voir maintenant ce que ça veut dire, parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile à comprendre, ce qui se joue là. Alors, effectivement, la Torah, elle nous parle tout à coup, après avoir parlé de ces problèmes dont je vous ai dit, de la charge des levim, et puis de l'impureté, etc., et de l'idouille. La Torah parle ici d'une drôle de situation. Il s'agit de quelqu'un, donc un homme en fait, qui tout à coup il décide de soupçonner son épouse de quelque chose. La Torah dit à tort ou à raison. Ça lui est passé par la tête. Et alors il dit à son épouse, il lui dit... devant témoin, il lui dit, je ne veux pas que tu discutes, que tu t'isoles avec telle et telle personne. De toute façon, une femme ne peut pas s'isoler avec un homme qui ne serait pas son mari. Mais bon, il lui dit, devant témoin, je ne veux pas. Et elle, peut-être, ou bien parce que c'est vraiment son amant, je ne sais pas, ou bien parce qu'elle est vexée qu'on la soupçonne et qu'elle dit, mais moi, il ne va rien arriver. Bien sûr que je peux m'isoler, il ne va rien arriver. C'est une erreur, on n'a pas le droit de le faire, mais c'est pas, ça ne porte pas, ça, on ne va pas lui faire passer en jugement, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, elle décide de s'isoler avec elle, avec cette personne sur laquelle elle a été mise en garde. De laquelle elle est mise en garde, elle s'isole. Ça veut dire qu'il y a des témoins qu'elle s'est isolée, c'est tout. Il n'y a évidemment pas de témoins d'autre chose. Alors là, c'est très ennuyeux parce que ils ont mis le doigt dans un engrenage. C'est-à-dire, lui, parce qu'il l'a averti de cette manière, et puis parce qu'elle, elle l'a, par provocation, parce qu'elle est peut-être vexée de ce qu'on commente, que soupçonner une chose pareille, etc. Il ne va rien se passer. Maintenant, ils ont mis un doigt dans l'engrenage. Ça veut dire que c'est, d'une certaine manière, ils ont demandé à Hachem de juger ce qu'il en est. Donc, il y a toute une procédure. Il va être obligé d'amener son épouse, finalement, au Beth Amikdash. Corban, elle va être interrogée, on va lui dire, on a très très peur, si jamais, alors, peut-être que je dis les autres, mais je me passe, si jamais c'était avéré, alors il y a une procédure, la procédure va déboucher sur en gros, sa mort, la mort de la femme. Et si c'était faux, alors tout au contraire, ça va déboucher sur une bracha pour cette femme. Ça veut dire que si cette femme, par exemple, n'avait pas d'enfants et qu'elle en voulait, elle les aura. Si elle avait des garçons, elle voudrait des filles, elle aura des filles. Si elle a des filles, elle veut des garçons. Elle aura dans ce domaine-là ce qu'elle veut. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que la procédure, elle va amener à ce que on va effacer, on va écrire le texte qu'on a devant nous ici qui concerne cette opération-là. On va l'écrire sur un parchemin et on va effacer ce parchemin, on va effacer donc ce qui est écrit dans de l'eau, et la femme, elle va boire cette eau. Et comme dans ce texte-là, il y a un nom divin, c'est une chose très énorme, quoi. Hachem accepte qu'on efface le nom divin, mais pourquoi est-ce qu'il accepte? Parce que c'est pour sauver ce couple, en vérité. Ce qu'on veut, c'est sauver le couple. Alors, si on n'arrête pas de dire à la femme, écoute, si jamais il s'est passé quelque chose, il n'y avait pas de témoin, donc tu n'encours rien du tout, parce que tu vas seulement perdre le montant de ta couva, c'est une question d'argent. Dis que tu ne veux pas boire, tu ne veux pas boire, et ça y est, c'est tout, à ce moment-là vous divorcez, et c'est terminé. Il n'y a pas de conséquences autres pour toi. Mais surtout, maintenant, la femme, comme la procédure est une procédure qui est impressionnante, c'est au Beth Amikdash, etc. Alors, c'est possible que la femme, elle est très impressionnée. On dit, tu n'as pas besoin de dire quoi que tu as fait quoi que ce soit. Tu peux très bien dire, je ne veux pas voir, j'ai peur. On ne te demande rien du tout. Dis que tu ne veux pas continuer, c'est tout. Surtout, ne va pas, s'il y a un problème, surtout ne joue pas les héroïnes, on n'a pas du tout envie que tu meurs. Tu ne mérites pas de mourir. Parce que tu n'as pas agi en toute connaissance de cause, dans la mesure où, vous savez bien, toutes les peines de mort qui existent dans la Torah, souvent dit, elles sont toutes en vérité académiques. Parce que pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait eu deux témoins qui ne sont pas en famille, ni entre eux, ni avec les parties, s'il s'agit d'un meurtre ou s'il s'agit de quoi que ce soit, et que ces personnes aient dit à la personne qui va transgresser, écoute, si tu transgresses là, tu fais ça, tu transgresses ce verset-là, tu encours telle et telle peine. Et il faut que la personne dise, mais je le fais pour ça, je suis tout à fait conscient, il faut qu'il agisse dans les secondes qui suivent. Si ça dure plus qu'une minute ou deux, c'est fini, l'avertissement est valable. Et on ne peut pas tuer qui que ce soit s'il n'a pas été dûment averti par deux témoins dans cette situation. Donc ça ne marche jamais, quoi. Il n'y a jamais deux témoins qui vont, et puis l'autre, il ne va pas répondre. Donc la peine de mort, elle sert à autre chose, on verra. Et donc là non plus, on n'est pas du tout intéressé, là, cette femme n'ayant pas été avertie par les témoins qui lui disent que si elle commettait un adultère, voilà ce qu'elle encourrait. Si elle a commis l'adultère, mais sans avertissement, elle n'est pas passible de mort. On ne lui vote pas les félicitations, mais elle n'est pas passible de rien du tout. Sauf qu'a priori, si c'était en toute connaissance de cause, normalement, elle doit divorcer. C'est son mari, il n'a plus le droit d'avoir un rapport avec elle. Donc on ne veut pas qu'elle meure. Donc on fait ce qu'on peut pour la dissuader de boire, etc. Mais si elle va jusqu'au bout, c'est une espèce d'ordalie, si vous voulez, donc ça veut dire, on demande à Hachem, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu penses de ce couple-là? Et maintenant, ça dépend, si ça va sortir. Si vous voulez, c'est comme si son intérieur est confronté avec le nom divin. Donc, si cet intérieur peut supporter d'être en face du nom divin, très bien, ça donnera une bracha, les bénédictions dont on a parlé. Et si son intérieur ne peut pas supporter la confrontation, elle va a priori en mourir. Mais il y a toutes sortes de conditions, en particulier si le mari, lui, de son côté, n'est pas très sérieux non plus, ça ne va pas marcher. Alors, quand on dit ça ne va pas marcher, ça veut dire qu'elle ne va pas mourir. Et si elle ne meurt pas, c'est comme si le ciel disait, ben, vous pouvez continuer de rejoindre la vie commune. Donc lui maintenant, parce que lui se conduit mal, et même si sa femme était adultère, c'est comme si Hachem disait, bon, continue, hein. Toi tu te conduis mal, ben, elle aussi. C'est étrange, avec la bénédiction d'Hachem, c'est pas... C'est une toute histoire assez compliquée. Bon, qu'est-ce qu'on veut exactement là? Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'Hachem veut qu'il accepte qu'on efface son nom pour essayer de sauver le couple en question. Alors, si c'est pas très clair, si vous voulez, la question qui se posait, elle s'est posée de la manière suivante. Dans la Gemara, on se demande, est-ce qu'une femme qui a été soupçonnée et qui a dit « ce qui se passe encore, c'est que si elle s'en sort, l'homme qui a déclenché le processus, il n'a plus le droit de divorcer. Elle peut partir, elle peut dire « je ne veux pas continuer », mais lui, il est obligé de rester marié avec elle tant qu'elle le voudra. Parce que lui, il a mis en marche le processus. Alors, nous supposons maintenant que cette femme-là, elle est sortie indemne, et puis au bout de quelques temps, ou pas, finalement elle dit, bon, ben, je ne veux pas continuer de vivre avec toi, et donc elle divorce. Elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et rebelote. De nouveau, elle tombe, elle est choisie comme ça, probablement, elle tombe sur quelqu'un qui lui fait les mêmes problèmes. Alors, est-ce qu'elle va... La question que la Gemara pose, c'est est-ce qu'elle peut revoir?
Est-ce qu'elle peut revoir?
Revoir, ça veut dire, est-ce qu'elle peut encore tester par le même système, ou est-ce qu'on ne lui dit pas non, ça ne marche pas? Alors, la Gemara dit non, mais... Alors, du coup, par la bande, on entend, mais donc, ça veut donc dire que ça a glissé. Alors, c'est pas clair. Dans la Gemara, il semble que ça n'a pas vraiment existé. Mais dans Yerushalmi, il semble là-bas qu'on pense que ça a existé une fois. C'est quelqu'un. Pardon ?
La deuxième question, si vous permettez, c'est une femme qui a été désespérée de ne pas avoir d'enfant.
Alors, c'est la question, elle existe. C'est ce qui est arrivé à la mère de Shmuel, Hana, la mère du prophète Shmuel. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'a pendant très très longtemps pas d'enfant. Alors elle a dit à Hachem, écoute, si tu ne donnes pas un enfant, tout ce qui me reste, c'est que je vais être obligé de jouer un sota. Et à ce moment-là, comme je n'aurai rien fait de mal, tu seras obligé de me donner un enfant. Alors, elle n'a pas eu besoin de mettre ses menaces à exécution. Elle a eu l'enfant. Alors de ça, on a l'impression qu'au moins en tant qu'argument, on a le droit peut-être de l'utiliser. Enfin, le Midrash dit qu'elle l'a utilisé en tant qu'argument. Maintenant, est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Je ne sais pas franchement, il faut trouver d'abord un mari qui veut bien jouer le jeu aussi. Pardon? Non, mais si lui il la soupçonne de rien du tout, ça ne commencera pas.
Non, lui ne sera pas au courant. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il y a quelque chose. Enfin, qu'elle
sait. Oui, il faut vraiment. Là, il faudrait qu'elle se conduise suffisamment. Parce que. Pour que ce soit suffisamment. Ouais. Je sais pas. Bon, vous avez raison. On peut imaginer qu'elle soit une assez bonne comédienne et qu'elle soit de mèche avec l'éventuel. Enfin, le faux amant, et, etc. Qu'il mette tout ça au point. En théorie, je dis ça, Hana l'a utilisé comme argument. Peut-être que ça suffit, hein, peut-être la chaîne, hein, si tu vas jusque-là.
Mais le fait que si jamais on est en mentalité de mari et de femme, disons,
Hachem, je ne sais pas si ça marche. Je veux dire, il faudrait qu'il soit extrêmement. Je ne sais pas s'il y a la bracha. Si c'est faux, si toute l'histoire est fausse, Hachem, évidemment, il sait que c'est faux. Alors, s'ils sont tous les deux de mèche, ça ne marchera sûrement pas. Si elle, est-ce que l'histoire de Hana, c'était une menace en l'air, ou bien si elle l'avait mise à exécution, alors est-ce que Hachem aurait dû lui donner cet enfant? En tout cas, comme menace, ça marche. Comment? Oui, oui, ça, c'est marqué que Elkanah, son mari, il l'aimait beaucoup. Et si c'était nécessaire, il l'aurait fait, je pense. D'après ce qu'on dit. Bon, je ne peux pas vous garantir. Bien, alors, voilà donc cette procédure. C'est une grande, très lourde, en fait, avec Cohen, elle doit jurer, etc. Bon, elle accepte les conséquences de ce qui va se passer. Et puis après, il y a le Nazir. On explique la juxtaposition, mais qu'est-ce que c'est que le Nazir? Alors, le Nazir aussi, c'est quelqu'un de. C'est très étrange parce que d'un côté, on dit que celui qui se conduit comme un nazir, enfin, celui qui est nazir, s'il arrive jusqu'au bout de sa procédure, donc s'il a réussi, ben, disons qu'il a décidé d'être nazir pendant 30 jours, si pendant 30 jours il a réussi à ne rien boire ni manger qui touche au raisin, il ne s'est pas rendu impur, il n'y a pas eu non plus d'accident, tout à coup il était coincé, après s'il est à un endroit et tout à coup il y a un mort, il vient en contact avec ce mort, il va devenir impur. Il n'a pas fait de faute, mais la nazirut, elle n'existe plus, il faut qu'il recommence. Alors, et puis aussi que. Il ne faut pas qu'il se coupe les cheveux, bon, ça. S'il a réussi, alors il est appelé Kadosh. Il est appelé saint. Mais en même temps. Quand quelqu'un prend cette décision-là, on n'est pas content. On considère que c'est une forme d'impureté, quoi, quelque part. Parce que l'idée qu'il y a là, c'est que pourquoi tu as besoin d'encore une mitzvah supplémentaire? Il y a déjà 613 mitzvot. Tu as besoin d'encore d'ajouter encore des contraintes. Ça ne suffit pas ce que la Torah elle t'a donné. Déjà. Donc si quelqu'un. Donc la personne elle est à la fois kadosh et en même temps tamé. C'est une forme d'impureté. Parce que bon, tu ne te suffis pas de ce que la Torah elle t'a donné, ce qui est absolument nécessaire pour pouvoir s'épanouir. S'il fallait encore une autre mitzvah, la Torah. Si la Torah avait jugé qu'il faut que quelqu'un soit dans sa vie 30 jours ou un an, je ne sais pas quoi, nazir, elle aurait dit, ben, vous devez être nazir 30 jours, point barre. Beaucoup de choses, pourquoi pas. Mais si la Torah ne l'a pas dit, c'est que c'est pas nécessaire. D'un autre côté, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que la Torah l'a donné, cette possibilité, si ce n'est pas bien? Donc c'est parce que probablement il faut que les gens puissent s'exprimer. Si quelqu'un a l'impression que il a envie de. On en parlait un peu avant Shavuot, de cette idée que la différence ce serait que là c'est lui qui aurait inventé la chose. Lui il pense, moi pour m'approcher de la chaîne, j'ai besoin de ce genre de contraintes. D'une certaine manière, si vous voulez, il ne s'agit pas séparément de ne pas boire, de ne pas se couper les cheveux et de ne pas se rendre impur. Si quelqu'un prenait ces trois vœux, ces formes de vœux, m'interdit, etc., il devait, ça ne s'appelle pas un nazir. Nazir, c'est un état. Dans cet état-là, il y a les conséquences, tu ne dois pas boire, pas te rendre impur, Et c'est un état qu'on accepte. C'est un état qui ressemble à l'état du Kohen. Sur certains points, par exemple, le Kohen non plus, il ne peut pas se rendre impur. Le Kohen, pendant qu'il fait la Avoda, il n'a pas le droit de boire non plus. Bon. Donc c'est quelqu'un qui il voudrait un statut à part. Ça va lui donner un statut à part. C'est quelqu'un qui a envie de. Je veux une relation. Je veux une relation personnelle avec Hachem. Donc c'est une façon de dire voilà, moi, ça, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai pris sur moi. Personne ne m'y contraint. Donc quelqu'un peut avoir envie de le faire. De façon générale, toute la paracha de Nedarim, toute l'idée qu'on puisse faire des vœux qui nous engagent, ça veut dire quelqu'un. Fait un vœu, bon, il y a des règles sur la formulation du vœu, et quelqu'un peut faire un vœu, je ne sais pas, dans lequel cette personne dirait qu'elle ne mange pas de pommes vertes. Ben, le problème, c'est si elle a décidé cela, elle ne mange pas de pommes vertes, si maintenant elle mange des pommes vertes, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrait se dire, bon, finalement, l'interdit des pommes vertes, c'est moi qui me le suis inventé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de manger des pommes vertes. J'arrête. Là, la Torah dit un instant, hein. Ça ne marche pas. La Torah, elle va te demander des comptes comme si cette pomme verte, c'était une côte de porc. Et on va te demander des comptes. Pourquoi? Parce que tu as utilisé d'abord des termes bien précis et c'est un engagement. Il faut savoir que la parole humaine est assez énorme puisque par une parole humaine, inventée par la personne, enfin, dite par la personne, sans aucune contrainte, elle se trouve dans la même situation que nous par rapport à des paroles divines. Donc, les pommes vertes sont mises sur le même plan que c'est pas n'importe quelle nourriture interdite. C'est assez énorme. C'est la puissance de la parole humaine. Cette personne-là, on peut sortir de cet état. Pour sortir, il faut pour ça, il faut aller voir un chacham, il faut expliquer pourquoi tu veux en sortir, parce que tu n'as pas tenu compte que, voilà, justement, ma femme, elle tient absolument à faire un plat avec des pommes vertes, et si je n'en mange pas, ça va faire des problèmes, etc. Alors, là, le Chacham lui dira, ok, on annule, enfin, tu n'es plus astreint à vivre selon ce vœu-là. Mais c'est toute une procédure qu'il faudra mettre en marche. Et donc, c'est une puissance qui est donnée à la parole humaine qui est absolument extraordinaire. On sait aussi que c'est toujours la parole humaine qui est fondamentale. L'être humain, il est caractérisé par sa parole. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que cet état-là ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui la Hassidout?
Non, pas du tout. D'abord, on appelle aujourd'hui la Hassidout, c'est pas. Enfin, c'est. Je vois bien ce que c'est, mais. C'est. Non, c'est pas.
Parce qu'il prend quelque chose sur soi.
Mais, d'abord, les Hassidim, ils n'ont pas pris quelque chose de particulier, en général. Ils font bien ce qu'ils font. Enfin, ils estiment qu'ils font bien, doivent bien faire. Ils mettent peut-être l'accent sur certaines, plus sur la prière que sur l'étude, par exemple. Mais bon, ça a toujours existé, les gens qui mettaient plus l'accent sur la prière que sur l'étude. Nous, on doit faire les deux. Non, le racisme, c'est pas quelqu'un qui prend quelque chose de plus.
C'est plus sévère.
Non, c'est pas obligatoirement. Il y a des gens qui sont beaucoup qui ont une pratique beaucoup plus sévère que le racisme. Les racismes sont à cheval sur certaines choses. On choisit certaines façons de faire, de s'habiller. Dans l'étude, ils ont choisi certaines choses auxquelles ils attachent plus d'importance, mais pas du tout. Beaucoup de gens qui ne sont pas les racines, qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus malafiques que les racines. Mais en tout cas, c'est pas ça du tout. C'est pas. Alors, au contraire, effectivement, si quelqu'un décide quoi que ce soit de prendre, de faire plus que ce que la halakha exige, qu'il le fait régulièrement, peut-être ça a même une valeur de vœu et que éventuellement il faudrait la faire annuler comme un vœu. Jamais, pour que si jamais on ne peut pas le faire, c'est pas. Normalement, dans la Amida, après la Shmoneh Esrei, la Amida, on recule le trois pas. Normalement, on devrait rester là où on est jusqu'à la Kdusha, quand on est en public, hein, quand on prie. On devrait rester là où on est jusqu'à la Kdusha. Et revenir pour la Kdusha, sa place. Bon, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des gens qui passent, parce que, etc. Mais c'est connu que, par exemple, Rav Schubert, c'était public, de Boston, sur l'équipe de Boston, lui il faisait ça, il faisait attention, il faisait ça aussi. La difficulté c'est le soir de Kippour, parce que dans l'arvit de Kippour, quand vous avez fini la Amida, il y a toute cette répétition qui dure assez longtemps, et ça impliquait qu'il reste les pieds joints pendant tout ce temps-là, en plus de la Amida. Et quand, toutes les années, quand il est devenu plus âgé, il faisait ce qu'on appelle la Tarat Nedarim, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire, parce qu'il était plus âgé, il ne savait pas s'il aurait la force de le faire. Donc avant qu'il court, il faisait Atarat Nedarim, il demandait l'annulation de. Ça n'avait pas une valeur de vœu, ce qu'il a fait toutes les années, pour qu'il puisse, le cas échéant, s'asseoir s'il en a besoin. Là, on donne cet exemple-là de quelqu'un qui a pris. En réalité, c'est la halakha, mais la plupart des gens. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Voilà. Beaucoup de gens ne font pas attention. Et surtout à Kippour, le soir de Kippour. C'est difficile. Ça dure très longtemps. Et... Donc maintenant, on a donc ce nazir, qui est quelqu'un donc qui. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui veut avoir une démarche personnelle, qui ne veut pas s'en tenir à ce que fait monsieur, madame, tout le monde. Mais
si vous voulez, par exemple, dans l'Ottawa national, c'est elle qui dit que vous ne puissiez pas avoir une c'est elle qui dit. Dans le cas de Rav,
oui.
C'est elle qui dit que son fils sera basé. C'est pas le fils qui est élevé qui a dit.
Non, mais Hana, moi, elle était nazir, c'est vrai, mais. Elle ne pouvait pas dire, elle a dit qu'elle a consacré à Hachem, mais en fait ça c'est tout un problème, comment est-ce qu'il est devenu. Le cas où c'est la mère qui déjà a dû commencer, c'est Shimshon, c'est
oui.
La mère de Shimshon, elle a reçu l'ordre du malar qui lui a dit ton fils sera nazir, donc toi maintenant tu commences déjà à pas boire de vin. Mais c'est une nazirute particulière, la nazirute de Shimshon, c'est un peu. Non, mais Hana, elle a dit qu'elle allait le consacrer à Hachem, mais il n'est pas devenu nazir parce qu'elle l'a dit. On ne peut pas prendre la naziroute pour quelque chose. Et donc, si on essaye de voir est-ce qu'il y a un fil conducteur dans ce qu'on a dit, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans le rôle de la tribu, des tribus de Levim, essentiellement son service de transport, de Mishkan, etc. Et ensuite, alors ces différents cas de figure, l'obligation qu'il y a de faire un bidouille, faire une confession. On a fait une faute, il ne suffit pas d'apporter le corban qui marque la faute, qui est censé réparer la faute, exactement. Et ensuite, je ne vais pas tout dire ici, mais ensuite la sota, cette femme-là soupçonnée d'être adultère, le nazir, et ensuite l'histoire de l'inauguration, enfin, avec Moshe qui qui monte et qui démonte le Mishkan, et ensuite les sacrifices apportés par les différents chefs de tribu. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à un fil conducteur ici? C'est très difficile, hein, c'est pas évident de ce qu'on n'en trouve pas, mais à savoir si vous avez une idée. Juste le lien entre la sota et le nazir, ça c'est une leçon qu'il faut prendre de ce que c'est un peu particulier, je ne vous ai pas dit ça, mais la sota, hein, toute la procédure, elle se déroulait à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc personne ne le voyait, à part les Kohanim qui étaient là, et comme en fait, comme on déchirait un peu les vêtements de la femme, tous les jeunes Kohanim, on les expulsait, parce que bon, il n'y avait que des anciens qui étaient là, les vieux étaient occupés. Et donc ensuite, on vient nous dire, celui qui a vu ce tableau qui coule, la personne ne l'a jamais vu. Donc c'est t'as entendu, c'est tout. C'est un voir, t'as entendu, ça fait du bruit, probablement, s'il y avait une sota. Ça aurait fait du bruit, j'imagine. Et on te dit, voilà, cette paracha juxtaposée, elle vient te dire que tu entends une chose comme celle-là. Alors il faut que, bon, c'est de façon générale, tu vois quelque chose, tu dois en tirer des conséquences. On peut dire ici, le nom de Baal Shem Tov, lui, disait que si tu vois quelque chose, c'est que tu devais le voir. Et si c'est quelque chose de négatif, ça veut dire que tu dois savoir que ça te concerne. Quelque part, on pourrait presque dire, tu vois ça, ben sache que tu n'es pas si loin que ça. C'est-à-dire, si tu l'as vu, c'est que ça te concerne, tu n'es pas si loin du problème qui est évoqué à cet endroit-là. On ne nous montre que ce qu'on doit voir, en fait. Ça, c'est aussi une leçon. Quelque part, c'est dire que, faut dire la même chose, on entend certaines choses, si tu l'as entendu, c'est que tu es censé en faire quelque chose. Tu pourrais très bien ne pas l'avoir entendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous qui sommes extrêmement, enfin, sommes très connectés, etc., on entend toutes sortes de choses. Avant, c'était un peu différent quand même, parce qu'avant, pour l'entendre, il fallait. Vous allez vouloir l'entendre quelque part. Sauf qu'il y avait des endroits où on savait tout. Vous connaissez l'histoire. On a dit une fois, c'est autant de Clinton. On a dit à Clinton que. Oui, il avait décidé quelque chose d'assez secret. Et chez les Juifs, ça se savait. Il a demandé comment ils font, etc. Oui, ils ont appris ça au mikvé. Alors il s'est déguisé, enfin qu'il allait au mikvé. Il entend un ami qui entend plus, on dit le Clinton, il vient au mikvé. Donc c'est sûr que. Entendre, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait pas tellement attention à ce qu'on entend. Parce qu'on est saturé pour le moment. Ce qui est peut-être grave, parce que finalement, il y a plein de choses sur lesquelles on devrait réagir, mais on ne réagit pas parce que. On voit le lien après avec le fait que Nathanel, le soir, le prince, la tribu d'Issachar, a eu cette idée géniale de. J'apporte exactement la même chose, mais en donner du sens. Donc là, on est aussi dans le donner du sens. Il y a le sens qu'il faut tirer de l'histoire de la femme et prendre des mesures. Parce qu'une des choses qu'on disait à la femme qui était soupçonnée, on lui disait, écoute, c'est bon, d'accord. Même à supposer que tu étais adultère, ben, peut-être les mauvaises voisines, ou peut-être que bien c'était sous, ou bien ceci, ou cela. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on comprend que ça puisse être arrivé. On disait ça, tout ça aussi pour que si jamais il y avait quelque chose, je vous répète, on voulait absolument qu'elle dise « je descends du train, je ne continue pas ». On ne voulait pas qu'elle meure. Mais ce que je trouve très intéressant, dans cette affaire, on ne peut pas traiter ça longuement, mais c'est qu'effectivement, le résultat puisse être que Hachem dit ben, « si toi tu te conduis comme ça, bon, tu peux continuer de vivre avec toi. » Alors que s'il avait demandé théoriquement, si quelqu'un qui sait que sa femme est adultère, il n'a pas le droit de... Donc là, le ciel lui dit tu peux.
Mais il appelle le jugement
du ciel. Il appelle le jugement du ciel et le ciel lui dit tu peux. Alors que s'il avait demandé à un tribunal, n'importe qui, ou n'importe qui avait regardé lui-même dans la lapin, il aurait dit qu'il n'a pas le droit.
Mais là,
quelque
part,
il appelle le jugement national, justement, en mettant en place cette procédure.
Et alors?
Alors que c'est pas légitime pour sa part. Non, mais nous sommes d'accord. Mais
c'est quand même une permission
qu'on lui donne ici.
Est-ce que c'est vraiment
une permission? En vérité, il n'a même pas le droit de divorcer. Elle peut dire, je ne continue pas avec toi. Mais lui, il est coincé, il ne peut pas divorcer.
Même
Non, mais si elle est coupable et que ça se voit, elle va mourir. Mais si ça ne se voit pas, ça peut être dû au fait que c'est lui qui n'est pas en ordre. Donc elle n'est pas en ordre, mais ça ne marche pas. Si toi, tu ne peux pas appeler le ciel le jugement sur tel et tel alors que toi-même, tu n'es pas net. Et si toi, tu n'es pas net et que tu le fais quand même, tu risques d'avoir une réponse qui a priori pourrait être ben oui, ben continuer de vivre ensemble parce qu'elle ne va pas mourir donc voilà, si elle ne meurt pas ben, ça veut dire que le ciel est d'accord que alors évidemment elle n'aura pas les bras fortes et tout mais bon, d'abord il peut très bien que au bout de ils avaient des enfants qu'ils voulaient ou déjà je ne sais pas, une raison ou une autre
et si un autre qui se conduit très mal, qui demande ce qu'il doit faire avec une femme qui se conduit très mal, on lui dit c'est pas toi.
Ah, il ne demande pas. Lui il se conduit pas mal, il se conduit mal. Il appelle Hachem.
S'il posait la Shéla pour savoir quelle est l'origine par rapport à sa situation,
Si il demandait aux hommes, les hommes lui diraient qu'il n'a pas le droit de continuer. Le ciel lui dit que tu m'as demandé, pas continuer.
Est-ce que c'est caché?
Oui, bien sûr que c'est caché. Mais lui, il le sait. Lui, il sait éventuellement que ben, finalement, j'ai demandé quelque chose, mais je n'ai pas la réponse. Il ne sait pas, lui, ce qu'il en est. Parce que lui, il sait qu'il n'est pas en ordre. Donc, il sait que ce qu'il a demandé, il n'aura pas la réponse. Il a demandé à Hachem de trancher, mais lui, Hachem ne va pas trancher, il ne va pas lui dire ce qu'il en est. Donc lui, il ne sait pas, mais de facto, il peut très bien que... Donc elle sait ce qui s'est passé, et ça marche pas, donc elle sait aussi que... Elle sait que lui, il n'est pas très honnête. Très en ordre. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé, et il ne lui arrive rien.
Imaginons qu'en fait c'est du mari tout ça.
Comment
c'est tout à l'heure, le rat disait voilà, parce que sa femme elle a eu des mauvaises fréquentations avec les voisines, c'était une femme légère. Et imaginons que sa femme en fait c'était pas une femme légère. Donc en fait c'est le mari qui fait des bêtises, qui n'agit pas bien. Donc en fait pourquoi le fait de pousser à faire la sauta et que elle ensuite elle voit les os et qu'elle meurt, alors qu'en fait le mari a dit c'est mal comporté.
Mais
si
c'est mal comporté, elle va pas mourir.
Oui, elle va pas mourir. Elle va pas mourir. Non, non. Je veux dire, imaginons qu'en fait le mari se comporte mal, il a toute sa femme, et que la femme fasse une bêtise.
Oui.
Comment ça se fait que là, la femme ne va pas mourir alors que le mari ne va pas mourir?
Elle ne va pas mourir, parce que si lui se comporte mal, alors l'opération ne marche pas.
Donc sans descendre du train, sans dire non, je ne sais pas, parce que.
Non, si elle descend du train, alors ils doivent divorcer.
Donc si la femme elle a fait la médecine et qu'elle demande tout le monde et dit qu'elle ne veut pas voir parce qu'elle a peur,
c'est tout, il y va, c'est tout.
Et si elle voit les os et qu'en fait le mari s'est mal comporté,
alors elle va rester vivante.
Et donc il n'aura pas le droit de divorcer.
Il ne pourra pas divorcer.
Pourquoi
si
j'avais le mari qui meurt
à l'époque? Il ne meurt pas par cette opération, lui il n'a pas vu.
Mais si il se comporte mal et qu'en plus il appelle le dimanche sur sa femme qui est totalement honnête, il serait explosé. Pourquoi il voit pas? Pourquoi il n'y a pas une procédure de voir?
Parce que l'idée c'est comme ça. L'adultère, c'est un homme qui va avec une femme mariée, il est adultère, mais pas par rapport à sa propre femme, parce qu'il va avec une femme mariée. À cause des kiddushin, la kdusha, elle est seulement sur la femme. Donc un homme qui va avec une femme mariée, et la femme mariée, c'est bon, ils sont tous les deux passibles de mort. Théorie, je vous ai expliqué ça. Mais si quelqu'un est adultère, mais qu'il ne va pas avec une femme mariée, donc même, il n'a pas le droit d'aller avec une femme mariée non plus, mais c'est pas facile de mort pour autant. Lui, il lui arrive, enfin, il sera adultère, c'est une avéra, si vous voulez, mais c'est pas une avéra qui entraîne la mort. Parce que lui, là, comme lui, il peut avoir autant de femmes qu'il veut, parce qu'il n'a pas de gdoucha. C'est une question économique, si vous voulez. Aréat me coup d'échette, lui, c'est ce que votre mari vous a dit. Voilà, ça veut dire que vous avez que du chat, c'est-à-dire vous lui êtes réservé. C'est-à-dire, vous, quand vous avez accepté de n'accepter aucun mariage avec qui que ce soit d'autre que lui. Enfin, lui, il n'a jamais accepté une chose pareille, parce qu'il a le droit. Un homme peut avoir plusieurs épouses, une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. La viandrie, elle est fermée, elle est interdite. Bigami, oui, mais je parle bien. Elle ne mérite pas la mort à cause de ça. Elle a fait une faute, c'est vrai. C'est lui qui a tout commencé. Si lui n'a pas averti devant témoin, et qu'ensuite elle s'isole devant témoin, il ne se passe rien, ou peu importe, c'est tout. Elle a fait quelque chose d'interdit, mais ça n'a pas ces conséquences-là. Le processus commence à partir de, comme dit la Torah, il veut passer un vent de folie dans la tête du bonhomme. Et à raison ou sans raison, il s'est mis à soupçonner ça.
Est-ce que tout cet ordre-là qu'on a vu dans les différents éléments, est-ce que c'est lié au rapport avec le chat? C'est-à-dire que tout ce qui nous revient à le chat, ça peut aussi nous donner
Non, mais où vous voyez ça? Non, seulement sur ce point-là,
Non, parce que sur les événements, à partir des points d'amour, c'est tout ce qui nous donne une chaîne dans le rapport de Bouchard. Une complexité de
Non, c'est sûr, que il y a une procédure, quand quelqu'un a fait une faute, il y a une procédure. Il apporte un corban, il fait d'abord bidouille et corban. On peut régler le problème. Maintenant, le transport par les villes, c'est pas la même chose. Bon, et ensuite, alors il y a cette femme-là, alors, normalement ça devrait se traiter devant un tribunal, mais il n'y a pas de quoi aller devant un tribunal. Lui, il s'imagine des choses. À tort, à raison. Oui. Ensuite, elle, ce qu'elle a fait, ça ne se traite pas par un tribunal. Donc, ce qu'il a fait, c'est une ordalie, et puis il va demander la chaîne tranche. Dérange Hachem. Ok, Hachem accepte. Déranger pour sauver un coup. Mais si toi t'es pas en ordre, tu déranges Hachem pour rien du tout. Puisque ça peut pas, ça va pas marcher. Hachem il va pas te donner une réponse. Donc c'est une croûte pas possible. Tu déranges, si on peut parler comme ça. Tu déranges Hachem pour rien du tout. Parce que ça servira à rien. Si, effectivement, ça peut servir, en théorie, ok, alors, maintenant, on dit, bon, à supposer que ça existe, etc., la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi il y a cette procédure, finalement. Pourquoi on lui donne cette possibilité de demander à Hachem d'intervenir. Je prie à Hachem à la limite, s'il veut divorcer, il peut divorcer. Pourquoi il ne divorce pas? Oui.
La question c'est également pourquoi cette procédure n'existe que pour les problèmes d'adultère, pourquoi il n'y a pas la même chose pour les meurtriers ou pour toutes les choses. Pourquoi la HM finalement il n'y a pas tranché les
cas? Premièrement parce que ici il s'agit d'un couple. Dans un meurtre, il n'y a pas, c'est pas un couple. Ici il s'agit de sauver un couple. C'est ça l'idée, justement. Il y a un couple, la HM, a priori on n'aime pas tellement que le couple ne se défasse quand ce n'est pas absolument nécessaire. Pourquoi tout à coup? Tu veux divorcer? Ben divorce. Non, tu ne veux pas divorcer. Alors qu'est-ce que tu passes le pied à tout le monde? C'est ça qui est un peu étonnant, pourquoi on lui donne cette possibilité d'ennuyer tout le monde finalement.
C'est pas par rapport à la
doucha qui est. C'est la doucha, s'il pense que c'est pas bien, ben divorce. Qu'est-ce qu'il espère? En vérité, c'est comme ça, psychologiquement, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il espère? Après avoir exposé sa femme à toute cette procédure-là, d'accord, ensuite, comme il ne s'est rien passé, des bras potes, etc., où il va aller se chercher là? Je ne sais pas, moi je n'arrive pas bien à comprendre. Comment il va vivre avec elle? Le ciel vient de lui dire que c'est une femme parfaite, et parfaite. En tout cas, sur ce plan-là, c'est vrai. Perfection. Bon, en tout cas, là, beaucoup lui envoient des bras potes, etc. Et lui, là, qu'est-ce qu'il va regarder maintenant? Ben, ouais. C'est difficile, non? C'est une femme qui peut donner un avis sur la question. Pardon? Non, mais si vraiment il était fou, je ne pense pas qu'on lui donnerait cette possibilité.
De mettre sa femme dans un état pareil, de devoir la déshabiller, de devoir.
La déshabiller pas vraiment, ça
c'est un peu. De la mettre dans un état où elle se trouve comme ça devant.
Oui, c'est dégradant devant les quelques colonies, oui.
D'accord,
c'est humiliant. Oui, tout à fait, oui. Pardon?
La jalousie, c'est pas voir,
c'est le chou. Oui, la jalousie, mais t'es jaloux, alors, divorce. J'arrive pas à très. La vérité, c'est que je comprends pas sa position. Si ça sort bien, c'est-à-dire si. Comment il va continuer de vivre avec elle? Comment une femme va regarder. ce bonhomme qui lui a imposé ça. Pardon ? Oui, non, elle peut partir. Mais le but du gars, c'est qu'il faut partir. La différence, c'est que quand elle part, après coup, il va devoir payer le Kaptouba. C'est question d'argent. Si elle descend du train avant, elle perd son argent. Et si elle divorce après coup, c'est lui qui va devoir payer.
Et c'est un cas, il est obligé de divorcer. Comment ça se passe? Il y a tout le problème, si c'est déjà un
service. Oui, non, mais on est en train de. Dans le, on est dans la. Autant de. Bon, l'astronomie. Il va donner. On ne peut pas faire ça aujourd'hui, mais si c'est le Bendin qui décide, il va être obligé.
Non, c'est vrai, de façon à Hachem de montrer à la femme en fait à qui elle a l'affaire, parce qu'elle ne savait pas que c'est son mari. Peut-être que c'est une façon à Hachem de lui montrer là, son mari de quoi il est capable. Donc lui, il peut plus lui divorcer, mais elle peut lui dire qu'il fait. Non, c'est pas ça.
Oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas. C'est lui que je ne comprends pas. Elle a une sorte de son fils. Et lui, qu'est-ce qu'il espère? Mais il ne saura pas parce qu'elle a pas du tout besoin de dire je l'ai fait.
Oui, mais lui, c'est ce qu'il voudrait en fait.
Ça, il ne l'aura pas parce qu'elle n'a pas de raison de dire je l'ai fait. Parce qu'il suffit de dire je ne veux pas boire. On ne lui demande pas, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas un problème qui. Si vous voulez, si on sait que quelqu'un a fait une faute, on n'a pas le droit d'en parler. Le seul endroit où on peut en parler, c'est si on est deux témoins. Alors on a une obligation d'aller au tribunal, si ça relève du tribunal. Mais si vous êtes tout seul, même si vous êtes seul à vue, à voir, par exemple, si quelqu'un, une personne, vous ne pouvez pas témoigner parce que vous d'accord, mais si un homme assiste à un meurtre, et lui il a averti, mais il est tout seul, il n'a même pas le droit d'aller au tribunal pour dire j'ai vu ça. C'est de la chenard. Puisque c'est le problème de la délation. C'est-à-dire que si le tribunal ne peut pas utiliser son témoignage, alors du coup c'est la délation. Ça ne sert à rien. C'est le problème du roi éventuellement, mais pour le tribunal, non. On n'a pas le droit. C'est marqué dans les histoires d'argent, tu peux compter que peut-être quelqu'un d'autre va venir s'additionner à toi. Dans l'histoire, dans le pénal, on ne peut pas faire ça. Le pénal, c'est ou bien on est à deux, on a vu ça à deux, ou bien ça marche. Ou alors tu peux
faire. J'ai vu quelqu'un tuer quelqu'un et le dire à personne.
Oui, tu n'as pas le droit de le dire.
Si c'est une femme, j'ai vu quelqu'un tuer quelqu'un, tu n'as pas dit.
Non.
C'est lâche.
Pourquoi c'est lâche?
C'est lâche parce qu'il y a un assassin qui court dans la rue.
Oui, mais tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Si vous n'avez rien faire.
Si on pense que ça peut protéger quelqu'un, c'est peut-être les toilettes, c'est pour le cachemar.
Ah non, si.
Si on pense que ça peut protéger les vies, c'est les
toilettes. Oui, non, ça c'est un problème. Alors, si c'est un danger public, alors à ce moment-là, il faut agir. Mais pas du tout. Le bonhomme, il en voulait à une personne bien particulière, et cette personne-là, il a réglé le problème. Je n'ai pas d'accord avec le film, mais c'est simplement.
Mais moi, si la sultane ne peut pas voir parce que elle est prête de ne pas pouvoir voir parce qu'elle raconte aussi les dialogues de ne pas voir. On peut la soupçonner en réalité d'avoir fait une faute alors qu'elle n'a pas fait de faute.
Non, mais justement, on n'a pas le droit de la soupçonner. Elle a dit je ne veux pas voir, j'ai peur. On lui dit. On lui fait peur, pour qu'elle puisse dire qu'elle a peur. On la fatigue, on lui fait peur, etc. Parce que c'est assez effrayant, la plupart des femmes devraient dire a priori non, on ne peut pas boire, quoi qu'il en soit. Il faut beaucoup de courage pour une femme qui sait qu'elle n'a rien fait, pour supporter tout ça et aller jusqu'au bout. En plus, je ne sais pas ce qu'elle dit.
Et tout ça sans finir le mari. C'est la réponse.
Sans quoi?
Et tout ça sans punir le mari, c'est la
réponse. Il va déjà. Il aura assez honte en fait. Parce que ça, ça se saura. Ça, il aura. Il ne sait pas où il ira se cacher. Si vous voulez lui donner un peu de coup, je ne sais. La, mais la, la honte, c'est bien pire. La honte qu'il aura, elle est bien pire. Pardon ? C'est la question que j'avais. C'est, dans un certain cas, je ne comprends pas comment lui pense continuer. Parce qu'elle, je suppose, je ne sais pas, je suppose qu'elle va dire au revoir.
Pourquoi dans ce cas spécifique, c'est Hachem qui a parlé?
Parce que c'est parce qu'un couple, c'est très important. Un couple, c'est l'unité de base du fonctionnement du monde, mais là, c'est la vie, c'est l'assurance. C'est comme ça qu'on se, que, on se perpétue. Je comprends, c'est vraisemblablement il ne se maîtrise pas, quoi. Ça veut dire que. Mais parce que s'il réfléchit un peu, il verra bien que ça. Il y a des couples qui restent ensemble, on ne sait pas pourquoi, donc eux, ils doivent savoir, on espère. Non, si vous voulez, on peut imaginer qu'elle va rester, je ne sais pas. Pardon ? Mais sortir du doute, il n'a pas divorcé.
Il l'aime.
Oui, mais. Il l'aime pas au point de passer par-dessus son doute.
La place que la toute la procédure, elle a pour mettre un éclairage sur ce qui se passait avant, sur ce qui se passait avant, dans le cours, avant que tout ça m'arrive. Parce que toute la procédure, elle va.
Oui, d'accord. Mais alors ?
Et bien justement, elle a un sens finalement pour cette procédure parce qu'elle va probablement permettre une chose sur tout un passé commun qui aurait débouché sur ce problème-là et qui serait réparé.
Mais le problème, c'est que ce passé commun dont. Donc, tu parles, c'est quoi? C'est. Ils sont tous les deux, ils vivent chacun de son côté des relations adultères.
Une destruction du couple, je ne sais pas à quel niveau il se situe.
Non, parce qu'il faut le prendre coup par coup, parce que sinon, ça ne sort pas.
Ben, si, parce que si toutefois, on imagine qu'on a un mari qui décide de soupçonner sa femme, il faut bien qu'il y ait un passé avant, où il y a déjà une destruction du couple, c'est une situation très dégradée, qui va tout d'un coup par rapport à tout ce qui est en train. Et toute la procédure, elle va permettre en lumière tout ce qui serait à réparer.
Mais le problème, c'est comment on peut le réparer. De deux choses l'une. Ou bien il s'est passé quelque chose, effectivement, dans ce cas-là. Parce que c'est vrai qu'en vérité, l'abdicat, le truc va vérifier aussi, va lui faire accepter dans le choix, est-ce que tu as été adultère précédemment, etc. Supposons que voilà, elle n'a jamais été adultère, elle ne s'est jamais rien passé de répréhensible. Elle arrive jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout. Voilà, ça l'inquiète. Mais maintenant, comment elle. Je sais pas, qu'est-ce que lui, il pense qu'elle doit penser. Il m'a envoyé là, en tout cas, il ne lui a pas fait confiance.
C'est lui, s'il avait été. S'il avait été adulté, en fait, et qu'il le sait.
Mais c'est que non, ça ne servira à rien. Donc c'est une coup de spade d'aller mobiliser Hachem pour quelque chose qui ne sert à rien. Non, mais ça ne. Si sa femme est une voleuse ou assassin, ça ne marche pas.
C'est quelque chose qui est dans la relation.
Ok, mais Le problème, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça résout le problème? Du coup, maintenant c'est clair, on se réveille.
Merci pour que j'ai une idée. J'aimerais respecter ma finale, justement, sur une réflexion.
Oui, mais réflexion sur quoi?
Sur cette façon d'être des choses. Parce qu'après, quand on est dans le lac, est-ce que ça peut amener, effectivement, à une réflexion?
Oui, bien sûr, mais on peut imaginer que si ça donne rien du tout, lui il sait que lui il n'était pas net, elle elle sait qu'elle n'était pas nette non plus. Bon, on peut continuer hein, maintenant. Continue pour d'autres raisons. La Torah a dit que tu peux continuer. On pourrait te dire, bon, ben, ça va. On peut continuer comme on l'a fait jusqu'à présent.
Alors que ce soit
celui
qui
s'est
parce que ça
donnera
quelque chose,
ou bien il me rattrapera, ou le contraire. Oui, ça veut dire qu'en vérité, elle mérite quelque chose, mais ça ne va pas s'exprimer parce que lui, il ne le mérite pas. Il ne mérite pas de le savoir et il ne saura pas. Ça restera caché comme ça, suffisamment caché comme ça a été jusqu'à présent. Voilà. Il n'y a pas cours mercredi soir prochain. Le suivant.
Celui d'après le 4.
Oui, le prochain cours c'est le 4 juillet.
Du mercredi soir.
Dimanche, il y aura tout ce dimanche.